Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
Des présumés éléments de M23, la société civile de Rutshuru demande à l'armée d'en finir avec ces rebelles. Province du Kwilu, une maladie inconnue a déjà tué plus de 280 enfants en l'espace de 3 mois dans la zone de santé de Mukedi à Gungu. Toutefois, le chef de la division provinciale de la santé s'est veut rassurant après avoir obtenu l'appui du gouvernement provincial et des partenaires. Et puis, bientôt le démarrage du recensement en RDC. En prélude de cette opération, Yvan Ilunga, délégué de l'Office national d'identification de la population ONIP, séjourne à Kananga pour le repérage des sites d'installation. Il est notre invité ce midi. Madame, messieurs, bonjour. Retour au calme progressif depuis ce matin dans la région de Bunagana, Tchanzu et Runyoni, dans le groupement des Djomba, territoire de Rutshuru. Nous sommes bien au nord Kivu. Les FARDC ont réussi à récupérer hier dans la soirée les collines stratégiques de Tchanzu et Runyoni, ainsi que quelques villages occupés dans la matinée d'hier par les rebelles du M23, affirment plusieurs sources dans la région. La société civile de Rutshuru demande à l'armée de poursuivre jusqu'au bout et d'en finir avec ces rebelles. Si Famagouro nous en dit plus.
D'après nos sources, la population qui s'est déplacée hier vers l'Ouganda voisin, mais aussi vers Rutshuru centre, Kalengera et au-delà, regagne leur village depuis ce matin et en grand nombre. Les présidents de la société civile de Rutshuru affirment aussi que certaines activités reprennent déjà dans les centres de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda. Par ailleurs, affirment nos sources, ces rebelles du M23 se seraient retranchés dans les parcs de Virunga, dans un triangle entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. C'est là qu'un groupe de rebelles du M23 campe depuis au moins 4 ans, précise-t-elle. En outre, les mêmes sources rapportent que ces rebelles du M23 auraient mené cette attaque sans succès dans l'objectif de prendre le contrôle de certaines villes pour pouvoir exiger la reprise des négociations avec le gouvernement central en vue d'obtenir l'amnistie pour certains de leurs leaders, notamment Sultani Makenga, Innocent Kaina et les autres qui sont sous mandat d'arrêt national. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Pour sa par l'armée rwandaise affirme qu'elle ne participe ni ne soutient les activités du M23. Cette réaction est contenue dans un communiqué officiel. Kigali affirme dans le même communiqué, je cite, le groupe M23 en question n'a pas cherché refuge au Rwanda lors de son retrait de la RDC en 2013, mais a été basé en Ouganda, d'où cette attaque est originaire et où le groupe armé s'est replié. Toute information dans les médias ou par des responsables de la région selon laquelle le mouvement du 23 mars serait originaire du Rwanda ou s'est retiré de ce pays est une propagande visant à saper les bonnes relations entre le Rwanda et la RDC. Fin de citation. Rappelons justement que les villages Chanzu, Ruznyoni et Bikenge, Kinyangurube et Ndiza ont fait l'objet d'attaques la nuit de dimanche à hier lundi des combattants du M23, selon le porte-parole de l'armée au nord Kivu. Question, le M23 reprend ses activités militaires? Comment expliquer cette énième attaque du M23 sur les positions de l'armée à partir du parc national des Virunga? Le point dans ce reportage de Gisèle Cage rendu par Mathieu Ilunga.
Même si la présidence du M23 nie dans un communiqué de presse publié dans la soirée de lundi l'implication des éléments du M23 dans les attaques à Rutshuru, plusieurs sources dans la région attestent pourtant qu'il s'agit bel et bien des combattants de ces mouvements. C'est depuis janvier 2017 que Makenga et quelques-uns de ses officiers s'étaient échappés de Kampala en Ouganda pour s'installer dans les parcs de Virunga avant d'être suivis par des hommes de troupes en provenance de Rwanda et de l'Ouganda, affirment les sources sécuritaires. Mais pour l'instant, il est difficile de confirmer si le M23 reçoit l'appui de ses anciens alliés. Depuis leur retour au pays, ce mouvement armé, pourtant déchu par le FARDC en 2013, à l'issue de l'opération Pomme Orange, a déjà mené plusieurs inquiétudes sur les positions de l'armée dans le Rutshuru, selon le porte-parole militaire, le général Sylvain Ekengi. À ce jour, le général autoproclamé Makenga Sultani disposerait entre 600 à 700 hommes et un important arsenal militaire sur le sol congolais, capable de défier toute une armée. À en croire nos sources à Rutshuru, l'attaque de Tchanzu, Runyoni ainsi que d'autres villages, la nuit du dimanche à lundi, avait été menée par deux hommes lourdement armés et bien organisés. Pendant ce temps, depuis 2017, les forces de sécurité congolaises n'ont jamais planifié des opérations militaires contre Makenga, déplorent certains membres de la société civile à Rutshuru. Goma, Mathieu Ilunga Chambuyo Monachebe, Radio Okapi.
Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et son collègue de la Défense sont à Bukavu depuis dimanche. Cette forte délégation gouvernementale arrive à Bukavu quelques jours après l'incursion d'un groupe armé dans le chef-lieu du Sud Kivu, sur place. Ils évaluent la situation avec l'ensemble des couches de la population. Pendant ce temps, plusieurs points de contrôle sont installés dans la ville par la police et l'armée. La psychose est toujours là, nous dit Cynthia Bachizi Nabizana.
Et si ça recommençait, voilà une question qui est sur toutes les lèvres à Bukavu. En effet, les stigmates de la récente attaque de la ville par des hommes armés, non autrement identifiés, sont encore vifs. Une inquiétude quelque peu dissuadée par la présence de la forte délégation ministérielle venue de Kinshasa pour évaluer la situation sécuritaire dans cette province. Malgré la présence des chefs de ministères clés pour normaliser la situation sécuritaire, des Bukaviens ont modifié leurs habitudes de vie pour le moment. Les rues se vident déjà à partir de 20h, moment où les points de contrôle sont installés à différents endroits par la police pour filtrer les entrées et sorties de la ville. Il est prié à tous les habitants de se munir d'une pièce d'identité pour faciliter ce contrôle. Pendant ce temps, les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont donc tenu un premier conseil de sécurité. Rien n'a filtré car ce sont des questions hautement sécuritaires, précise un membre du cabinet du ministre de l'Intérieur. Ce qui est pour le moins sûr, des mesures idoines pour une sécurité optimale de la province sont attendues. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, plus de 40 000 retournés de guerre des localités de Nyakunde, Marabo et Sota dans le territoire d'Irumu reçoivent des vivres depuis le week-end dernier. La distribution est organisée par l'ONG internationale Mercy Corps pour la réinsertion de ces personnes qui ont été victimes des atrocités des groupes armés. La société civile du territoire d'Irumu remercie les humanitaires pour cette assistance. Isaac Remoyope, reportage.
Ce programme de distribution a été lancé le vendredi dernier dans la localité de Nyankunde à 45 km au sud-ouest de Bunia. Les bénéficiaires sont des retournés de guerre qui ont regagné leur milieu ces trois derniers mois. Certains avaient fui à Bunia, chef-lieu de la province, et d'autres à commandé dans plusieurs localités dans la chefferie de Walindubindi. L'ONG Mercy Corps a organisé une foire sur place où ces personnes achètent des vivres de leur choix, haricots, farine de maïs, des manioc, des choux et même de la viande. Plus de 10 000 familles sont ciblées par cette action humanitaire dans les chefferie des Andisoma, des Mobala, des Baïma d'Irumu où sont installés ces retournés. La société civile du territoire d'Irumu indique que cette assistance va faciliter la réinsertion communautaire de ces personnes qui avaient tout perdu pendant les atrocités des groupes armés. Son président Gili Gotabo déclare que certains n'ont toujours pas accès à leur champ à cause de l'insécurité. Cependant, il demande aux humanitaires de venir également en aide à plus de 7000 familles de déplacés qui ont fui les récentes attaques des rebelles ADF vers Komanda et qui ont trouvé refuge à Nyankou et sa périphérie. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la paix dans l'est de la RDC, l'embargo sur les armes, les sanctions individuelles avec le gel des avoirs, la limitation ou l'interdiction de circuler pour ceux qui sont frappés par ces sanctions, ces problématiques ont été analysées hier par le Premier ministre congolais et la délégation du comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC, délégation que Jean-Michel Samalkonde a reçue en audience. Constat particulier de la situation générale, des progrès notables ont été enregistrés en rapport avec les violences faites aux femmes. Billy Van Lutumba nous en dit plus.
Ce constat est tiré sur base du rapport tel que présenté par la conseillère spéciale du président de la République en matière de questions basées sur les violences faites aux femmes, affirme Abdou Abari, ambassadeur permanent de la mission du Niger auprès des Nations Unies et président du dit comité. Le comité note également une avancée significative dans l'éradication totale de l'enrôlement des enfants au sein de l'armée. Autre question évoquée, l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC.
Depuis l'imposition de ce régime de sanctions, c'est la cinquième fois que le président du comité de sanctions visite la RDC, nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tshisekedi au niveau de la sous-région. Fondamentalement, en tant que comité et en tant que conseil de sécurité, nous sommes convaincus que quelles que soient les politiques vertueuses qui vont être entreprises à l'intérieur de la République démocratique du Congo, tant que les pays du pourtour ne respecteront pas leurs propres obligations, les résultats ne seront pas probants. Et donc c'est avec satisfaction que nous constatons ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire en tant que président de la République démocratique du Congo, mais également en tant que président de l'Union africaine.
Signalons que c'est depuis 2013 que ce comité est institué conformément à la résolution 1513 des Nations Unies sur la RDC.
Parlons santé à présent. Province du Kwilu, décès à répétition des enfants de 0 à 5 ans causés par une maladie d'origine inconnue dans la zone de santé de Mukedi, territoire de Gungu. À ce jour, le cumul des cas depuis fin août dernier est de 4881, dont 286 décès enregistrés. Cette maladie se manifeste notamment par la fièvre, la douleur abdominale et l'anémie, a dit le chef de la division provinciale de la santé au Kwilu, Dr Jean-Pierre Bassaké, dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Les cas sont encore là. Les enfants ont la fièvre, des douleurs abdominales, des vomissements. Quelques-uns aboutissent à un tableau d'anémie. Nous sommes actuellement à 4881 cas, 286 décès en cumul. On a amené à un appui médicamenteux, matériel et technique. Certains produits qu'on utilisait n'avaient pas les bons principes actifs. Notre satisfaction, c'est que il n'y a plus assez de décès, mais nous avons quand même pour nous à amener l'appui gouvernemental sous recommandation, bien sûr, de l'Assemblée provinciale. 5 millions sortis de la caisse provinciale. Des médicaments à la Kamebasu, notre CDR de près de 4 000 $. Les partenaires aussi ont rendu disponibles les anti-palidéens, donc ACT ainsi, de près de 28 000 à 29 000 $. Depuis le week-end à ce jour, c'est près de 33 000 à 34 000 $ de médicaments et intrants. Nous avons un biologiste qui prélève les échantillons. On va envoyer au niveau national, certes à l'INRB.
Province de Lomami, les infirmiers qui travaillent à l'hôpital général de référence de Cabinda dénoncent le non-isolement des malades de Covid-19. Dans une déclaration faite le week-end dernier, ces infirmiers ont donné 48 heures aux autorités provinciales pour délocaliser les malades de Covid-19. Ils menacent de sécher le lieu de service si rien n'est fait. Ils révèlent que leurs collègues ont été contaminés et un est décédé de Covid-19. Les infirmiers disent craindre que l'hôpital général de référence de Cabinda devienne le foyer de propagation du virus Covid. L'un d'eux, Pierre Kapwemwepu, s'est confié au micro de nos confrères de la radio Veritas de Cabinda.
Après avoir perdu beaucoup de cas dus au Covid, nous voyons maintenant que même les personnels de l'hôpital sont maintenant atteints. Et aujourd'hui, nous assistons à un décès d'un agent de l'hôpital. Ce qui nous a pas chanté. C'est pourquoi on s'est adressé au gouverneur pour trouver solution dans 48 heures. Si dans les 48 heures, on ne trouve pas solution, on va abandonner les malades. Nous demandons aux autorités, deuxième point, la désinfection immédiate de tous les bâtiments de l'hôpital. Troisième point, que la gestion de la pandémie doit être comme partout ailleurs. Vous savez que les cas de Covid, l'hôpital héberge les gens avec comorbidité très fragile au Covid. Alors, on ne peut pas héberger les malades avec autre pathologie en même temps gérer les cas de Covid. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité provinciale d'éloigner les centres de Covid loin de l'hôpital et chercher une équipe qui doit s'occuper des cas de Covid et non les mêmes agents de l'hôpital qui ne sont même pas formés, qui vont commencer à travailler et sur les autres malades et sur les cas de Covid. Vous voyez que l'hôpital ne peut pas être un centre de propagation de la maladie. Le gouverneur de la province, est-ce que c'est lui qui avait publié les premiers cas? Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui pouvait nous montrer où est-ce qu'on pouvait orienter les cas de Covid. Nous voyons qu'il y a une accalmie. Maintenant, on ne peut pas laisser les gens commencer à mourir.
Interrogé à ce sujet, le ministre provincial de la Santé de Lomami, Kazadi Chipoud, affirme que des dispositions ont été prises avec les responsables de l'hôpital pour l'isolement dans un bref délai des malades de Covid-19, cela en attendant la fin des travaux de construction du bâtiment destiné aux malades Covid. Direction le Haut-Katanga. Les membres de la société civile de cette province ont été appelés à améliorer leur approche dans la manière de faire le monitoring et le plaidoyer des crimes liés à la corruption et aux faits assimilés organisés par l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Cet atelier d'un jour a réuni les ONG des droits de l'homme, les mouvements citoyens, les journalistes et autres venus de plusieurs coins de la province. L'objectif est d'identifier les acteurs de la corruption et leurs complices afin qu'ils soient déférés devant la justice pour que la République soit rétablie dans ses droits, indiquent les organisateurs. Le compte-rendu de Jean Gando.
À en croire les organisateurs, les actes de corruption privent la République de moyens qui devraient être utilisés pour le bien de la communauté. La société civile, une fois outillée, doit être à même de monitorer les cas de corruption, d'identifier les auteurs et leurs complices et les référer auprès des autorités pour qu'ils soient sanctionnés et que les avoirs qu'ils auraient bénéficiés soient récupérés au profit de la communauté nationale. Et pour y parvenir, les membres de la société civile devraient être dotés de techniques pouvant les amener à bien mener leur travail sans tomber dans la diffamation. D'où il faut avoir des preuves avant de se lancer dans la dénonciation pour freiner ce fléau qui gangrène les différents domaines de la vie nationale. Georges Kapiamba, président de l'ONG ACAJ.
Nous les avons sensibilisés sur les conséquences de la corruption sur le plan de la démocratie et de l'état de droit, sur le plan des services sociaux, mais aussi sur le plan de la déstructuration de l'économie nationale. Ils ont pris conscience du fait que ce fléau doit être combattu par tout le monde. Ils savent qu'on ne peut pas réaliser les droits de l'homme si on ne combat pas la corruption, parce que la corruption est un facteur qui vient empêcher la jouissance des droits de l'homme.
Notons que cette rencontre était sanctionnée par une déclaration finale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'acte de transfert de propriété des 26 œuvres qui seront restituées par la France au Bénin est signé ce mardi à l'Élysée en présence des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon. Ceci clôture un processus initié il y a 4 ans. Une fois le document signé, un avion cargo part en direction de Cotonou où sont attendues mercredi 10 novembre les pièces dont 3 grandes statues royales.
L'invité.
L'Office national d'identification de la population ONIP s'active pour le démarrage du recensement en RDC en séjour à Kananga. Yvan Ilunga, délégué de cette institution, a indiqué à Radio Kapi qu'il est sur place pour le repérage des sites d'installation avant le lancement de l'opération. Dans cet entretien avec François Kadima, il revient sur ce recensement qui, selon lui, est différent du travail de la CENI et de l'Institut national des statistiques.
Monsieur Yvan Ilunga, bonjour.
Bonjour.
Recensement, et vous êtes au Kasaï central. Quand est-ce que ça va débuter?
Notre présence au Kasaï, c'est une mission de repérage de sites d'installation d'une part de l'administration qui va accueillir l'Office national de l'identification de la population au Kasaï central et d'autre part l'entreposage des équipements qui permettront à ce que nous puissions arriver à bon escient à réaliser ces missions. Comme vous le savez, les missions de l'ONIP consistent d'une part à identifier le Congolais qui vivent au Congo, les étrangers qui sont au Congo, bien évidemment, en octroyant les cartes d'identité aux Congolais, mais aussi les documents administratifs qui permettent aux étrangers d'évoluer en RDC et l'entretien et la constitution du fichier général de la population. Donc, au regard de ces 3 missions, nous sommes venus au Kasaï central pour repérer les sites et ensuite faire rapport à la hiérarchie qui, au moment opportun, va lancer effectivement les opérations de recensement.
Recensement de la population, différent de l'enrôlement des électeurs de la CENI, ça va se passer comment?
Très bien. Lorsque je vous ai parlé des missions de l'ONIP, vous comprendrez que l'ONIP ne vient pas pour une activité ponctuelle. Par contre, les missions de l'ONIP lui donnent une activité permanente. Contrairement à la CENI, qui vient organiser les élections au bout d'une période donnée et il ferme les clics et les claques, il s'en va, par exemple, à sa hiérarchie. L'ONIP vient faire ce qu'on appelle le recensement administratif, qui est contraire au recensement scientifique qui est organisé par l'INES, l'Institut National des Statistiques. L'INES nous donne l'approximation sur les nombres de la population, mais l'ONIP vous dit exactement avec certitude combien il y a de Congolais, où sont-ils logés, sur telle avenue il y a combien de Congolais, dans telle maison, qui est là-bas, le papa c'est qui, la maman c'est qui. Il donne effectivement l'identité aux Congolais. Alors, quant à la CENI, vous avez suivi au niveau central, le gouvernement a opté pour la mutualisation, c'est-à-dire recensement, identification et élection. Avec la mutualisation, on permet à ce que les opérations qui peuvent se faire de manière cumulée se font, n'est-ce pas, pour aboutir aux meilleures élections, parce que il faudrait déjà mettre en tête que les recensements dont on parle, l'identification de la population, n'a rien à voir avec les élections. L'élection continuera son chemin, mais nous allons continuer à identifier le peuple. Au moment venu, une commission qui a été mise en place au niveau de Kinshasa, ONIP, CENI et INES, ils vont vous dire quand est-ce que les opérations vont effectivement commencer.
Alors, selon la planification au niveau de l'ONIP, le recensement prendrait combien de temps? Il est commencé aujourd'hui par exemple.
Ce que vous devez savoir, c'est que les recensements, c'est une activité de toute la vie. Parce que le Congolais naît chaque jour, décède chaque jour. Les étrangers arrivent au Congo chaque jour, les Congolais voyagent chaque jour. Ceux qui viennent de l'étranger vers la RDC ont besoin des cartes des résidents. Est-ce qu'on doit dire que voilà, on se limite à ce stade-là, on va donner seulement aux Congolais de janvier 2022 au janvier 2023 et puis les autres étrangers qui viendront en RDC, on ne va pas leur donner de cartes des résidents pour étrangers, même pour les Congolais. Par exemple, est-ce que les Congolais qui vont naître en 2028 n'ont-ils pas droit à avoir des cartes d'identité? Et donc, les missions de l'ONIP, ce recensement, n'est-ce pas, administratif, ne doit pas être limité dans le temps. L'opinion publique a comme l'impression que l'organisation des élections est liée. L'organisation d'élections suit un calendrier précis. Mais l'identification de la population ne peut pas être limitée dans le temps parce que nous avons des enfants chaque jour. Il y a des gens qui décèdent chaque jour. Il faudrait imprimer de valeur les attestations de naissance, les attestations de décès. Et donc, ce recensement-là, c'est un système, en fait, en réalité, que le chef de l'État a décidé pour que nous puissions avoir une population non estimative, mais plutôt quantitative.
Monsieur Ivan Ilunga, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier.
Le délégué de l'Office national d'identification de la population, ONIP, répondait aux questions de François Kadima. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rongmouchinj, coordination de Nola Luzi Tukabambi, à la technique Alain Goy et Belinda Bosuma devant ce micro. Merci.